messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler de l'Alliance Sunrise. On en parle juste après le générique.
De la télé à vision. Regardez-moi, regardez-moi, voyons.
Pour m'accompagner ce matin, des invités de choix pour parler de cette Alliance Sunrise à l'UTC. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À quoi ça va servir demain? On a avec nous Martins Morgenheier, qui est anciennement chercheur à l'UTC. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Je sais que vous êtes auditeur régulier de Graphite. Vous passez de l'autre côté du micro.
Exactement, et ceci depuis des décennies maintenant.
On va parler donc de cette Alliance Sunrise. Vous êtes la partie française pour l'Université Technologique de Compiègne. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est Sunrise? On connaissait plutôt les alliances avec Sorbonne Université, par exemple, qui était une très très grosse alliance. À quoi ça sert aujourd'hui Sunrise ?
Sunrise est donc une alliance universitaire européenne. Donc l'UTC, avec 8 autres établissements de l'enseignement supérieur en Europe, a répondu à un appel à projet. Et donc cet appel à projet est désormais donc retenu, financé par l'Union européenne. Et ces appels à projet de la part de la Commission servent à fédérer, à unir les forces en Europe. Et donc de tels appels à projet existent dans divers domaines, que ce soit en recherche, que ce soit en transfert technologie, etc., etc. Ça existe aussi au niveau régional, par exemple, par les programmes Interreg. Et donc ici, les alliances universitaires européennes visent donc à fédérer les universités pour que nous, ensemble, on crée, pour le faire très très simple, pour créer une grande université européenne. Et donc il y a eu quelques années, on va dire, de dance floor, où les universités européennes se sont réunies pour regarder qui match avec qui. Et donc nous avons trouvé nos 8 partenaires de choix, et dont des invités sont aujourd'hui présents. Tu les introduiras, je suppose.
Absolument. Avant de les introduire, habituellement, on parle des très grosses universités, un petit peu pour avoir une place dans le classement de Shanghai, qui est le classement international des universités. Là, c'est des universités qui sont plutôt à taille humaine, qui sont plutôt dans des villes moyennes ?
Exactement, ce sont des établissements, donc d'une part, de taille plutôt moyenne, comme l'UTC, qui, à l'échelle internationale, est un établissement de taille moyenne. Et il s'agit aussi d'établissements qui veulent et qui ont un impact régional. Donc l'UTC avait été créé il y a maintenant quelques décennies également pour avoir un impact dans la région, dans la Picardie à l'époque. Et il est de même pour tous les membres de cette alliance universitaire Sunrise, donc des établissements qui veulent être là pour les régions, pour la durabilité, donc peut-être pour les choses avec une autre valeur que juste briller sur le firmament des très très grands.
On est également aujourd'hui avec nous en compagnie de Léo, qui fera la traduction sur cette partie plutôt anglophone. On pourrait aussi peut-être parler en allemand, puisqu'aujourd'hui vous avez des partenaires européens qui sont allemands, donc de l'Université Technologique de Ilmenau. On a avec nous Jens Wolling et Mira. Bienvenue sur notre antenne. Et Jens est plutôt professeur sur les médias, sur la communication politique. Est-ce qu'il peut nous présenter un petit peu son parcours et qu'est-ce qu'il fait dans son université?
So to Ilmenau, I'm working especially at the beginning more on political communication and also on research projects. So teaching methodology of research. So these are the main focus of my work. I'm still working on methodology, so I'm teaching that. But from the focus of my research has changed a little bit from classical communication, political communication research, more to first to environmental communication and more to the broader field of sustainability communication. And now in the last years, I would say the focus is on sustainability communication with a specific focus also on energy transition. So that's a big topic also in Germany. I don't know if it's also a big topic here in France. I think it's a little bit different from from the nuclear industry that you have here in France is a little bit different from the discussion in Germany, but it's closely related also because we have a European market on that. And so therefore, yes, it's a big topic, and that's I do a lot of research related to that.
Donc initialement, il était plutôt axé sur la communication politique et sur l'enseignement de la méthodologie universitaire. Et au fur et à mesure des années, ce focus a changé légèrement de la communication classique vers la communication environnementale, pour ensuite s'intéresser plutôt à la, enfin plus spécifiquement à la communication de la durabilité. Et puis dans les dernières années, avec un focus encore plus spécifique sur l'énergie, sur la transition énergétique, avec notamment en Allemagne, c'est un sujet autour du nucléaire qui est pas tout à fait le même peut-être qu'en France, mais qui est quand même un sujet qui est international, surtout avec les marchés européens en ce moment.
Mira également avec nous. Mira qui est une collègue journaliste mais qui travaille également dans le cadre de Sunrise. Est-ce que vous pouvez nous présenter également votre curriculum?
I work with Jens at TU Ilmenau, so we are really focusing on now it's more to project on how university could transform to become more sustainable. So it's not how university not only talking and teaching, but also doing something. So that's the focus of my project. However, in my previous life in Indonesia, so I come from there, I work once as a journalist, so in radio. So it's like really like happy to be here. And in Ilmenau, we create this radio program with our campus radio on Ilmenau Sustainability Corner as part of, because sustainability, you have to talk about it. So my background is communication scientist. I have a doctoral degree on climate communication with Jens, in Jens' department. So if you're not talking about sustainability, it's not exists. So we have to talk about that. And a radio program is important, I think.
Mira travaille avec Jens à l'université d'Ilmenau sur la transformation de l'université, c'est-à-dire pas seulement que l'université soit un lieu de parole et de transmission, mais aussi un lieu de faire. Elle a également une vie précédente en tant que journaliste radio en Indonésie, donc c'est un grand plaisir d'être ici à la radio. Et elle continue la radio aussi dans le cadre du Ilmenau Sustainability Corner, qui est donc un dispositif qu'on va évoquer un peu plus tard. Elle est également titulaire d'un doctorat en communication du climat. Et précise que si on ne parle pas de durabilité, en fait, ça n'existe pas, tout simplement. Donc c'est important d'en parler, et encore plus à la radio.
Martine, vous êtes sur les génies des procédés, donc vous travaillez plutôt sur c'est quoi génie des procédés, pour faire simple? Je sais que vous travaillez sur les poudres, vous travaillez sur tout ce genre de choses.
Oui, c'est ça. Donc pour expliquer en bref, comme on expliquerait peut-être à un petit cousin de 10 ans, donc le génie des procédés, c'est la création de matière. Donc nous avons des ingrédients, quelqu'un nous les donne, la matière première, et on transforme ces choses pour obtenir des produits à la sortie. Et donc quand on prend la voiture en autoroute, on voit en bord d'autoroute les installations de la chimie qui sont grosso modo des tuyaux et donc des tubes, et on n'y voit rien. Et donc nous, on sait quoi mettre dans ces tuyaux, dans les réacteurs, pour qu'il y ait à la sortie des produits dont nous avons tous besoin. Et donc ça, c'est quelque chose d'un côté. On utilise tous des produits toute la journée. Donc imaginons par exemple des matières plastiques. Tu as un stylo entre tes mains. Tout à l'heure, si tu dois aller à l'hôpital faire un prélèvement de sang, quelque chose comme ça, il y a énormément d'objets en plastique qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc nous sommes, en tant qu'ingénieurs chimistes, ingénieurs de procédé, dans cette position de connaître le procédé, de savoir ce que c'est notre produit, et aussi de faire face à un environnement que nous polluons, on peut peut-être le dire tout simplement comme ça, mais que nous ne voulons évidemment pas polluer. Et donc il y a maintenant, pour créer le lien avec ce qui vient d'être dit par Mira et Jens, il y a un défi incroyable pour nous, ingénieurs en génie de procédé, qui est de créer ce lien avec notre environnement social, avec les attentes de la société. Et donc, c'est là où, dans le cadre de cette émission, la parenthèse, elle devient assez chouette. Donc c'est l'Union européenne qui nous aide énormément. Donc nous voyons ça en France avec maintenant une dizaine d'années, avec beaucoup de criticisme. On nous parle de Frexit, on nous parle de plein de choses. C'est un peu on risque de percevoir l'Union européenne comme le gros capital qui nous impose des choses. Et en réalité, nous avons aussi, avec l'Union européenne, des gens, on va dire, un peu comme toi et moi, des chercheurs, des gens, des universitaires, qui font leurs recherches, qui comprennent les défis. Et sur la base de ces évidences, ensuite, il y a une Union européenne qui dit « Tiens, il faut qu'on progresse, il faut qu'on change ». Et donc, c'est là où tout ce qu'on vient de dire se retrouve un peu à la même place. Donc, nous avons le génie procédé avec tous ces défis, ces procédés, ces produits. Nous avons la société de l'autre côté. Nous avons la protection de l'environnement, le climat. Et donc, nous avons une Union européenne qui dit « Tiens, unissons nos forces ». Et donc, c'est là où une alliance universitaire européenne a un rôle à jouer. Et donc, c'est pour ça que le dernier S dans Sunrise est pour « Sustainable ».
On peut nommer les universités qui sont présentes, notamment les villes, peut-être ?
Peut-être juste quelques-unes. Donc, malheureusement, on va dire pour l'auditeur, nous n'avons que très peu de spots touristiques en Haute-Besace, tout comme Compiègne, on commence par ça. Donc, nous avons, par exemple, dans les plus connus, nous avons une université à Ancône, en Italie. Nous avons une université, on va dire, non loin de Stockholm à Västerås, si je le prononce bien, qui est la Mälardalen University, Ilmenau, donc dans le sud-est de l'Allemagne, pour en nommer quelques-unes. Après, on part un peu plus, on va dire, à la campagne, au nord du Portugal, en Pologne, à Tirol. Donc, vous apprenez comme moi qu'il y a une université, donc à Bolzano. Je dirais une série de partenaires qui sont homogènes en termes de petites villes d'appui.
Hier, vous êtes retrouvés pour un lancement de Sunrise. Ça s'est passé à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette conférence un peu inaugurale ?
Voilà, donc hier, on a pu créer une synergie, si je puis dire, entre les activités de Sunrise et qui sont donc là pour le cas présent, un projet que Jens Wolling, Mira Rochadi et moi-même menons avec des universités en Asie du Sud-Est, l'Allemagne, la France. Puis les activités Sunrise et puis aussi le lancement de l'Institut de transition environnementale de l'Alliance Sorbonne Université. Tu mentionnais tout à l'heure l'existence d'alliances au niveau national. Donc à l'époque, ça s'appelait les IDEX pour les initiés, donc des fonds de financement. Et donc l'UTC est membre de l'Alliance Sorbonne Université. Et cette alliance, ensemble avec l'UTC, vient de créer un institut qui vise à travailler les sujets concernant la transition environnementale. Et donc là, on voit tout de suite qu'on a besoin de communicateurs, on a besoin d'experts en communication. Et ce sont des choses que nous, à l'UTC, nous n'avons pas. Et là, on voit l'atout de créer une alliance universitaire européenne, parce qu'on peut juste se servir des outils qui ont été développés chez les autres.
On parlait juste avant du nucléaire allemand. En fait, l'Allemagne a choisi d'arrêter toutes ses centrales nucléaires, contrairement à la France qui a choisi d'en construire une nouvelle. Mais parallèlement à ça, du coup, comme l'Allemagne n'est pas autonome en énergie verte, c'est-à-dire en renouvelable, ils ont choisi d'utiliser le charbon, notamment avec des mines à ciel ouvert. Comment on fait le lien entre, du coup, les règles de chaque pays et notamment les règles environnementales ?
Oui, je pense que ça, c'est une question dont la réponse mériterait un tout petit peu plus que les 6 heures qui nous restent ce matin, il me semble. Donc, je pense que l'Europe, pour répondre de façon très, très générique et pas du tout technique, l'Europe est une construction de compromis. Et donc, nous savons que entre nos 27 pays membres, nous avons des tendances totalement orthogonale en partie, donc historique sortie du nucléaire en Allemagne et évidemment très loin de la politique énergétique en France. Pourtant, ce sont deux grands pays qui vont, on va dire, dans l'ensemble quand même très bien et qui sont un peu parmi les moteurs de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne doit faire en sorte à ce que tout le monde s'y retrouve, qu'on trouve un compromis. Et une fois de plus, en se basant sur les évidences, faire évoluer cet ensemble. Donc de se dire, OK, aujourd'hui, on a le status quo qui est du nucléaire en France, comme tu dis, du charbon, même ouverture de centrales à gaz en Allemagne. Donc pour nous, vu de France, un non-sens. Mais donc je ne réponds pas encore à ce point, puisqu'il faut aller dans les détails pour comprendre un peu ce qui se cache derrière. Il y a aussi, on va dire, des besoins purement techniques, non énergétiques, mais voilà, faut répondre, on va dire, à la nature. Et donc, le résumé de tout ça est une politique qui fait évoluer les choses. Et je pense que là, on se porte plutôt bien, parce que quand on trouve un compromis à 27, ben c'est déjà au moins quelque chose qui réfléchit. Et donc après, avec plaisir pour revenir, qu'on parle un peu de politique énergétique en Europe.
Là, l'Alliance est toute jeune. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? C'est quoi les premières rencontres? Est-ce qu'il y a des états des lieux qui sont faits? C'est quoi les axes de travail? Là, vous êtes tous les trois enseignants-chercheurs. Comment sont intégrés les étudiants à ce projet-là?
Très, très bonne question et évidemment, c'est très important. Donc, pour faire une réponse qu'on pourrait peut-être qualifier d'être technocrate, puisque c'est aussi un des préjugés qu'on a par rapport à l'Union européenne. Donc, notre alliance sanoise est structurée par des lots de travail, des work packages. Et donc, cela veut dire que pour nous allouer les sommes, et donc on parle quand même de millions d'euros pour l'UTC et nos partenaires européens, pour nous allouer ces budgets considérables, l'Union européenne nous a demandé de structurer nos travaux prévus pendant les 4 années à venir. Et donc, cette structure se fait par des lots de travail. Et donc, il y a dans ces lots de travail, un lot de travail qui vise, on va dire, la coopération ou la coordination administrative. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment peut-on simplifier les démarches, comment peut-on être plus efficace. Et donc, on regarde chez nos partenaires et en mettant vraiment tout sur table. Donc, nous avons à l'UTC fait le tour des choses dont nous estimons qu'il s'agit de dysfonctionnement. Et donc, on demande à nos partenaires, tiens, vous faites comment pour avoir des temps de réponse plus brefs, pour recruter plus rapidement, etc., etc., pour citer quelques exemples. Et donc, ces travaux, on va dire un peu plus dans les coulisses, d'une perspective étudiante, sont des travaux qui mènent à une qualité des études, du quotidien des étudiants améliorée. Mais il y a aussi des activités, des actions qui sont menées dans le cadre de ces lots de travail, qui visent par exemple la mise en place de modules d'enseignement, de MOOC, de modules impliquant offline, online les personnes, les étudiants. Il y a même un board d'étudiants, donc il y a des élus étudiants qui peuvent contribuer. Récemment, ils se sont donc rendus chez notre partenaire suédois, à Vestalas, pour échanger, pour regarder comment pouvons-nous améliorer, on va dire, l'état des études, le contenu des curriculums, l'encadrement, la vie étudiante, en s'inspirant des exemples des uns et des autres.
Yens et Mira, comment ça se passe chez vous dans votre université? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la taille de l'université, comment elle fonctionne? Quels sont les rapprochements un peu culturels entre l'UTC et l'Allemagne? Est-ce que vous fonctionnez un peu pareil?
I think what we have in common is that we have both universities have a strong focus on technology. So this is, I think, the thing that we have most in common. Today we learned a little bit about how it's organized and so the size of the university is also similar. So we have like 4,000 students, you have 4,400. And what's really interesting is we have a lot of bachelor programs in engineering, and they have frequently a small amount of students. And so what we have learned that you have like a core program for the bachelor, so that they are working all together. And it's an interesting point that we are also discussing that now, that perhaps in the future there will be something like that. So I think we can perhaps learn a little bit about this idea that students at the beginning have like this liberty to choose between different topics. And when I think back of my own study program, and yeah, long, 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 long time ago, we had a lot of liberty and perhaps like a thing in between. So giving students perhaps in the first semester an idea, there is some overview lecture, some overview seminar, so that they know at the beginning, I would recommend take that if you're still not sure what you're going to do. Take that, then you get a better idea of how the whole offers that we have here are structured. That would be a good idea, and then give students a liberty. I am really a fan of giving students a liberty and not to organize it too much. So therefore, I think we can learn something from the university here, from UTC.
Alors, ce qu'il y a en commun, c'est des tailles d'université qui sont très similaires, avec autour de 4000 étudiants, ainsi qu'un focus assez appuyé sur la technologie, puisque ce sont des écoles avec des cursus d'ingénieurs. Quelque chose que Ilmeno pourrait apprendre peut-être de l'UTC, c'est le fait que le programme de base, alors ce qu'est le bachelor programme en Allemagne, qui serait l'équivalent de la licence, le tronc commun à l'UTC, c'est quelque chose d'assez comme une grande piscine, un petit peu, où les étudiants peuvent choisir leurs UV, alors que là-bas, ils ont plus des filières déjà plus petites et plus spécialisées, on va dire. Et quand il revient sur ses études il y a très longtemps, il se souvient qu'il y avait beaucoup de liberté et que peut-être il y a quelque chose à trouver entre beaucoup de liberté et beaucoup de dirigisme. Par exemple, faire des séminaires d'initiation au premier semestre pour les nouveaux étudiants, pour qu'ils aient une vue d'ensemble des différentes matières qui leur sont proposées, et qu'ensuite ils puissent faire un choix plus libre là-dedans. Voilà, personnellement, Jens est plutôt partisan de moins organiser, d'être un peu moins dirigiste, et puis de laisser la liberté aux étudiants.
Sur la communication, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de communication sur le développement de l'écologie, sur le pas de côté, sur la transition écologique? Est-ce que les médias ont leur place? Est-ce qu'ils ont leur importance? On sait qu'aujourd'hui, les médias numériques sont plutôt consommateurs d'énergie. Est-ce qu'il faut repartir traditionnellement sur le papier, la radio?
I think to go back is a little bit impossible. Because the current listeners, young people have other preferences. I think what's important is that to try to take a position. I mean, I love radio, yeah, and some young people don't even know that how radio looks like. They know podcasts. So radio is podcast, but with music between. And I think it's actually, I think to use all channel as possible. Of course, there's challenges in small radio like this, but I hope it will survive. And with the system that maybe here in Europe has different, where I come from in Indonesia, it's really like rapidly dying, just like in the United States, because the subsidies from the government or the public does not exist. But here, I think in Europe, like in Germany and in France, you get a little bit of subsidy to keep the classic radio media survive. I think we have to use that.
Donc c'est pas forcément évident de revenir en arrière puisque on va pas changer les habitudes des auditeurs de manière aussi simple. La radio, c'est un média qu'elle affectionne particulièrement, mais avec les nouveaux étudiants, par exemple, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas vraiment la radio, ils ne savent pas faire la différence avec les podcasts. Pour eux, la radio, c'est des podcasts entrecoupés de musique. Donc il y a pas mal de défis sur la préservation de ces médias un peu anciens, mais ici, en Europe, on a quand même la chance d'avoir, par rapport aux États-Unis ou à l'Indonésie, un peu de financement public, au moins, qui permet à ces médias de survivre. Donc il faut les investir.
For me, it's more the idea of an independent journalism that we have to protect or to guarantee that this kind of communication survives. And I have the impression that some students don't even understand the difference between PR and independent journalism. And I think that's something what's really, really important to find a way how to make this survive.
Donc pour Jens, une idée très importante, c'est celle de protéger la notion même de journalisme indépendant, puisque ils peuvent constater, par exemple, que des étudiants ne savent pas vraiment la différence entre la communication, les relations publiques, et le journalisme indépendant, ce qui est quand même quelque chose de dangereux. Donc voilà, il faut vraiment protéger cette idée de journalisme indépendant.
Martine, pour vous, est-ce que du coup le journalisme est assez enseigné à l'université, à l'UTC ? Il y a quelques UV qui parlent un petit peu de journalisme, mais est-ce que les ingénieurs sont bien armés pour comprendre un peu les enjeux médiatiques ? On voit qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, enfin pas beaucoup, mais il y a des ingénieurs qui font la transition, qui font un diplôme d'ingé, qui ensuite partent dans le journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui ça devrait être beaucoup plus développé pour avoir des ingénieurs plus éclairés médiatiquement ?
Oui, clairement, je pense que, bien sûr, nous, ingénieurs, pour pouvoir prendre notre rôle dans la société qui serait logique, à savoir, donc, nous sommes formés à pouvoir raisonner avec des unités, des grandeurs, au-delà de toutes les autres disciplines. Donc là où le médecin, et je le fais évidemment juste pour les taquiner, s'arrête en milligrammes par litre de sang ou je ne sais quelle unité, nous les avons en notre besace, mais nous avons aussi des kilogrammes, des mètres, des secondes, etc. Donc nous sommes une espèce qui sommes extrêmement bien préparés à décrire le monde physique, biologique, chimique, on va dire le monde SVT autour de nous. Et on nous a formés pour le maîtriser, pour en faire quelque chose. Et donc ça veut dire que sur cette base-là, nous pouvons aussi être force de proposition. Nous pouvons changer les choses, déjà en comprenant le défi. Et je pense que une étape importante dans cela est la communication. Et la communication de ce monde physique, des défis physiques, des solutions physiques, je dis physique pour ça englobe, on va dire, tout ce qui est la nature l'adore. Pour communiquer, il faut aussi comprendre, on va dire, les mécanismes de communication. Et donc là, je pense que nous vivons actuellement, en tout cas, moi, en vieillissant et en maintenant ayant les paroles d'un vieux, je mets le blanc là sur le con. En ayant les paroles de vieux, je pense que on ne va pas dans le bon sens. Comme ça vient d'être dit, la communication ciblée dans le sens démagogie, manipulation, et peut-être aujourd'hui confondu avec, on va dire, des contributions comme nous ici, où on échange juste, on donne son point, mais sans aucune partie prenante derrière, donc sans aucun employeur ni aucun actionnaire derrière. Et donc je pense que là, on a un vrai défi, et qui ne s'arrête pas aux futurs ingénieurs, les ingénieurs UTC, diplômés UTC, mais la société dans son ensemble. Et là, je pense que, voilà pour les paroles de vieux, je pense que c'est devenu un tout petit peu dangereux actuellement. Et cela est aussi une conséquence logique de notre système qui diffère beaucoup du système en Allemagne où les médias sont publics. Il y a, on va dire, un canon de médias publics. On va dire un peu en France, pour illustrer, ça ressemblerait peut-être un peu à Arte. Et je pense qu'il y a maintenant des gens qui nous écoutent et qui vont dire « Ah oui, Arte, ça c'est du solide. » Là, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent m'enfumer, ils veulent me manipuler, c'est juste Arte. Et c'est peut-être, on va dire, parfois un tout petit peu, je ne sais pas, ennuyeux ou différent, ou c'est pas, voilà, le Rayana qu'on a l'habitude de voir tout le temps, un peu partout. Mais est-ce que c'est pas justement, on va dire, un atout, une force dans le système de poser les choses, de revenir aux évidences, d'avoir des gens payés par une forme d'impôt. En Allemagne, c'est le cas. Nous, on l'avait, la contribution audiovisuelle. Et donc, de dire, mais tiens, on maintient dans notre société ce pilier. Donc, on a la jurisprudence, on a tout ce qu'il faut, mais on a aussi une entité qui est un des piliers de notre société, qui sont des gens qui sont payés pour nous éclairer, pour comprendre les choses à notre place ou pour préparer la compréhension. Donc, très important, je pense.
Là, en France, pour l'université, vous bossez également en tant que chercheur avec des entreprises. C'est quoi l'idée des entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont dans cette optique-là ? Est-ce que ça ne va pas dans leurs intérêts ?
Non, je pense que dans l'ensemble, on se fait, en tant que citoyen, on se fait un peu des idées par rapport, on va dire, à une sorte de potentiel complot des capitaux, des entreprises, etc. Les entreprises, ce sont nos anciens diplômés. Donc ce sont des gens, on va dire, à nouveau, comme toi et moi, qui ont fait le choix de ne pas rester assis ici à l'UTC, mais qui ont continué leur CV, on va dire, leur carrière dans le privé. Et donc, très souvent, pratiquement tout le temps, ces interlocuteurs, ils recherchent la même vérité que nous. Ils recherchent la même qualité de vie que nous. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de... on va dire, de grands dilemmes ou défis. Je pense juste que nous aurions intérêt à être, on va dire, un peu plus clair. J'évite le mot transparent parce que ça veut dire rien pouvoir voir, mais être clair, être tangible en termes de communication et peut-être aussi parvenir à être plus quantitatif. Il y a un de nos collègues ingénieurs qui est Jean-Marc Jancovici. Et son style qu'il a trouvé, c'est de quantifier les choses. Donc, il parle d'esclaves carbone ou d'énergie. Il donne des chiffres, des ordres de grandeur. Et je pense que nous aurions tous intérêt à être un peu plus dans cette logique-là, de dire, OK, donc cela veut dire quoi? Récemment, on a eu le scandale du cadmium. J'espère qu'un jour, on en parlera ici sur l'antenne. Et donc là, on peut chiffrer en milligrammes par kilogramme d'engrais distribués sur nos sols, notamment ici en Picardie. Et je pense que c'est quelque chose de stratégique ou un choix qu'on devrait faire. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question sans trop partir en chou-fleur d'idées qui me viennent à l'esprit.
Là, pour l'Alliance Sunrise, qui sont les autres enseignants-chercheurs qui sont impliqués? Quelles sont les matières qui sont impliquées dans cette alliance? Est-ce que c'est transmédia, transcours?
Oui, clairement, donc, avec la perspective UTC, nous couvrons toutes les branches, tous les départements de l'UTC sont concernés. Mais comme on voit ici, donc, nous sommes ici avec des enseignants-chercheurs du domaine des médias, donc quelque chose qui n'est pas présent à l'UTC. Donc ça veut dire que la somme des parts qui composent donc, Sunrise est bien, bien, bien plus grande que la somme juste individuelle des pièces. Donc on en fait beaucoup plus. Et puis, donc, l'Alliance est très, très jeune. Et donc, c'est à nous maintenant de comprendre comment pourrais-je faire à terme pour que Jens puisse m'aider si j'ai quelque chose à communiquer, si j'ai découvert quelque chose, comment faire concrètement, comment l'inviter, ce n'est pas mon voisin de bureau ici à l'UTC. Donc, ce sont des choses encore à mettre en place. Mais dans l'ensemble, oui, tout le monde est concerné. Et nous avions eu la réunion kick-off de Sunrise à l'UTC, et de mémoire, on était 300 personnes, 300 personnels de l'UTC présents, donc ça, on va dire, implique énormément de gens. Et ce qui m'est important aussi, non seulement des enseignants-chercheurs, mais aussi le personnel administratif qui fait bouger cette boutique depuis des décennies.
Est-ce que dans cette optique-là, est-ce que du coup vous réfléchissez aussi à tout ce qui entoure Sunrise, c'est-à-dire les déplacements, toute la consommation énergétique qu'on peut faire? Est-ce que c'est beaucoup plus global en termes d'expérimentation?
Tout à fait, oui. Donc nous avons des stratégies de durabilité. Nous, comme toujours, on va dire, pour toute action que nous menons à l'UTC, nous privilégions évidemment les visioconférences. Il est évident, hier on a eu notre banquet donc, d'ouverture à Sorbonne Université, donc il est évident que c'était un traiteur entre guillemets durable, et ça se voyait dans les assiettes, donc c'était des lentilles, aucun pavé de bœuf. Et donc je pense que oui, nous jouons bien notre rôle comme nous le pouvons dans notre société. Oui.
C'est quoi la prochaine étape pour Sunrise après la rentrée, après les vacances?
Oui, donc nous avons un agenda qui mériterait aussi être, on va dire, illustré un jour ici, pourquoi pas. Très dense, donc 4 années de lancement de ce consortium, avec donc à l'issue des 4 années, l'objectif d'avoir créé quelque chose comme, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une sorte d'université européenne, donc on va dire créer une toiture commune à notre château.
Il y a un endroit où on peut suivre vos travaux. Est-ce que le grand public, à part les étudiants, peut suivre un petit peu cette expérimentation?
Oui, ça tombe très bien. On a l'UTC, la responsabilité, on va dire, entre guillemets, du marketing, des communications au grand public. Et donc nous avons, comme on le fait maintenant, donc un flow LinkedIn, il y a une page web, il y a même des vidéos YouTube. On espère produire des podcasts, donc notamment avec nos invités aujourd'hui, donc une série de podcasts sur les sujets qui nous intéressent, pour aussi, on va dire, qu'on s'y retrouve tous. Donc mon dada est, comme tu l'as dit, le génie procédé, le développement durable, la prévention de pollution, les sciences basées sur l'évidence. Et donc pour ça, j'ai besoin de mes collègues un peu partout en Europe. Et donc, avec l'espoir que cette phase de lancement de 4 années de travaux nous servira à ne plus y penser aux travaux, mais juste bénéficier de ce qu'on a accompli.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la radio qui est présente dans votre université?
So we have a radio, a campus radio. So it's HSF radio. It's the oldest campus radio in Germany. So it's like, I think it's 50 years old. It used to be formed during the former Eastern Germany and still survive until today. So it's also a non-profit organization formed. Most of the time, I mean, it's actually very strong, supported by the engineering students, because then engineering students studying media technique, technology, media technology, and electrotechnic, they are the one who's like really creative and making the radio is their lab. Because at that time, when it's formed, there is no media and communication science. There is no journalism. So it's really like a technical laboratory of students of engineering in Ilmenau. It grows until today. Now we have students of media and communication science who also studied about journalism, public relations. And now it's like a melting point of students' activity and also staff. And the alumni, really strong, connected. Many of them working at a very good media house or public broadcast in Germany. And they come together every year and shared. And it's like a community then at the end. So. And it's really nice to be here to see also that it's something exists here like this here.
Donc la radio qui est sur le campus à l'université d'Ilmenau s'appelle Radio HSF et c'est la plus ancienne radio universitaire d'Allemagne. Elle a été créée à l'époque où le pays était encore séparé en deux, il y a 50 ans. C'est également une structure associative à but non lucratif. Et initialement, il n'y avait pas d'études de journalisme ou de médias au sein de l'université. C'était plutôt, c'était le média sous l'angle de sa communication technique, en fait. Et donc, la radio servait de laboratoire, en fait, pour la créativité des étudiants. Aujourd'hui, il y a aussi des étudiants en sciences des médias, en journalisme, en communication. Et un aspect intéressant de cette radio, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens élèves et ingénieurs qui sont passés dans cette radio, qui travaillent maintenant dans des médias publics ou pas en Allemagne, et qui forment un réseau, vraiment une sorte de communauté. Donc c'est un aspect très intéressant.
Est-ce que c'est important d'avoir un média dans une université, aussi bien du papier qu'un blog, qu'une radio? Est-ce que les étudiants, pour leurs cours ou pour leur vie d'adulte plus tard, c'est important d'être formé à comprendre le média en le fabriquant?
I think so. I mean, even in a traditional teaching, it is important not only to listen, but also to practice things. So I think that is like a laboratory. And I think it's always the very importance of a local radio or a local newspaper is highly important, because when you are not connected or you are not understand what's happening around you, you cannot make a decision. So you decide something on the information that you get, whether it is about what clothes I wear, until what political party you will choose at the end. So I think it's really important also this to give the student the opportunity, only the opportunity, because at the end they have to choose it themselves to make it as interesting as possible and say, if you join this activity, the radio, you will get a life experience that will enrich you as a person and also give you the opportunity to, to develop that further in your future career. I think, I hope that answers the questions.
Oui, même dans un enseignement traditionnel, c'est important de pratiquer en plus de simplement écouter. Et donc, l'importance en général d'avoir un média, que ce soit un journal papier ou une radio locale, c'est de pouvoir comprendre son environnement et puis en fin de compte faire des choix dans sa vie de tous les jours, que ce soit quels vêtements on va porter ou bien pour qui on va voter. Donc si on n'a pas de médias, en fait on ne peut pas faire des choix informés, tout simplement. Après, par rapport aux étudiants, ce qui est important, c'est de leur donner l'opportunité de le faire, parce qu'évidemment ils restent volontaires, ce n'est pas une obligation dans le cursus. Et en général, on présente la chose comme étant une expérience de vie qui va les enrichir non seulement dans leurs études, mais aussi pour leur vie future.
Dernière question avant de se quitter, une question plus légère d'un point de vue touristique. Quelle vision vous aviez de Compiègne ? Est-ce que vous connaissiez Compiègne avant de venir aujourd'hui dans l'université et également dans notre radio ?
I don't think we don't know. We don't know about Compiègne before. But it's we just arrived yesterday and it's beautiful. It's beautiful. And even I I just know that you have an intensive French course here at Compiègne. I really, if I have to choose, then I will come here. It's really beautiful, this city. It's and the similarities with Ilmenau, it's the forest. Both city are near forest. And both city, now I learn how many students' initiatives Compiègne UTC has. I think it's really, really interesting for me to see that because it's similar with Ilmenau. I think there is a saying, Ilmenau is so small, it's not Berlin or Munich. If you would like to have the most experience of Ilmenau, you have to create something. You have to do things there. And I think what makes Ilmenau special is that particular things. I was a student there, and I think when I heard how big the opportunity that UTC offered to students. That is also something that where you could feel then in the future belong to Compiègne. And I think that is really, really, really interesting. So I definitely would like to visit this university again in the future.
Donc non, il ne connaissait pas Compiègne avant d'arriver hier. Par contre, ce qui est frappant, c'est qu'il y a effectivement une assez grande similarité avec la ville d'Ilmenau, puisque les deux villes sont un petit peu au cœur de la forêt. Et puis aussi, un point intéressant, c'est la quantité d'initiatives étudiantes qu'il y a à Compiègne. À Ilmenau, il y a une espèce de dicton c'est une très petite ville, c'est pas Berlin, c'est pas Munich. Donc si on veut avoir une expérience intéressante là-bas, il faut faire les choses un peu soi-même. Et donc c'est quelque chose qui se retrouve aussi peut-être à Compiègne. Une forte initiative étudiante qui permet aussi de créer un sentiment d'appartenance à la ville pour les étudiants.
Pour les étudiants qui vont partir l'année prochaine, qui vont demander leurs vœux pour partir à l'étranger en échange scolaire, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont programmées dans Sunrise ? Est-ce que c'est leur cours traditionnel ? Comment ça se passe ?
Oui, bien sûr. Donc nos étudiants bénéficieront, et je l'ai oublié tout à l'heure, bien sûr, ils bénéficieront du réseau européen qu'est Sunrise pour pouvoir exprimer leur choix de départ pour faire leur semestre Erasmus, et donc que ce soit au Portugal, en Pologne, en Allemagne, en Suède. Et donc, on a avec ça encore un nouvel enrichissement de notre stratégie internationale.
Du coup, il y a une aide en plus par rapport à la politique habituelle d'aide pour les étudiants. Il y a quelque chose, est-ce que vous les aidez financièrement ? Est-ce qu'il y a de l'aide logistique pour trouver des logements là-bas ? C'est quoi ?
Oui, donc d'une part, il y a les aides, entre guillemets, habituelles. Et ça, même, on s'y est un peu fait. Il y a la bourse Erasmus et les gens se disent, tiens, c'est normal. Ben non, c'est pas du tout normal. On est un continent qui s'est dit, tiens, c'est bien que nos jeunes sachent quel pays se trouve au nord de mon pays et au sud. Il n'en est pas de même pour un étudiant aux États-Unis, donc qui va peut-être même ignorer l'existence du Mexique. Et donc, au-delà de ça, donc on finance ces études, on co-finance, on donne, on va dire, le petit coup de pouce. Il y a aussi la région Hauts-de-France qui aide beaucoup les étudiants de l'UTC pour leur mobilité internationale. Et puis ensuite, il y a par exemple l'université franco-allemande, encore une sorte de sponsor pour les étudiants franco-allemands. Et puis plein d'autres. Et donc, dans le cadre de Sunrise, je pense que outre, on va dire, des petits coups de pouce ponctuels pour participer à des séminaires, pour s'inscrire dans des modules type MOOC, etc., etc., l'aide, telle que je la vois en tant qu'ancien Erasmus, elle va plutôt être immatérielle, à savoir qu'il y a donc des établissements qui se connaîtront bien mutuellement. Et donc cette confiance mutuelle qui s'établit, que nous sommes en train de construire, on va dire, pas par pas, entre les établissements, je pense que c'est ça ce qui va faire la force pour l'encadrement des étudiants, pour que les étudiants, en revenant de leur semestre, on sache juste, nous savons pertinemment qu'ils ont été chez un partenaire à qui on fait entièrement confiance. Et donc je pense que cette dimension immatérielle est extrêmement riche et encore quelque chose qui est peut-être un peu un atout qu'on a en Europe et on n'en parle juste pas assez. Ben, nous sommes quand même des pays qui nous faisons confiance à fond maintenant, tout en gardant, on va dire, le besoin de la compétitivité au niveau des économies. Mais en tant que citoyen, on sait qu'on peut compter sur les autres.
Merci à tous les trois d'être venus ce matin dans notre studio. Et puis, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable sur le www.graphite.net. Et également, vous retrouvez plein d'informations sur le site de l'UTC, utc.fr/sunrise-alliance, avec toutes les informations sur l'université. Merci.
Merci.
Thank you.
Thank you.
Thank you.